L'émission de la maison sur Radio Évasion au temps du coronavirus, une maladie qui a mis un coup d'arrêt assez brutal au tourisme, surtout au tourisme mondial. D'abord, les frontières se sont fermées pour éviter la circulation du virus, les avions sont donc restés cloués au sol, des croisières contaminées se sont transformées en quarantaines infernales sur la mer, puis tout ce qui fait le sel des vacances a cessé ses activités, les restaurants, les bars, les festivals, les cinémas, mais aussi les équipements sportifs, les salles de spectacle, les discothèques ou les parcs d'attractions. Bref, il ne restait plus rien, ou presque, du tourisme tel qu'on le connaissait. Mais c'est peut-être aussi parce que, dans le fond, ce tourisme n'est pas tout à fait durable. En tout cas, une partie de ce tourisme est trop consommateur de ressources ou d'espace, ou trop destructeur ou trop polluant. Une association que nous recevons régulièrement dans l'EM, c'est le CICODES. La solidarité internationale est son objet, et notamment la question d'un tourisme équitable, ou plutôt prédateur, non ? Amandine Dutoit, bonjour.
Bonjour Véronique. Donc effectivement, aujourd'hui, les images de tourisme, quelque part, ça nous renvoie à des images de bonheur, de détente, de vacances. On a tous envie d'être ici au mois de juillet, au mois d'août. Et puis c'est vrai que c'est peut-être un petit peu rageant de se dire, ben voilà, quelque part, cette année, notre liberté touristique est un petit peu réduite, parce qu'on n'osera peut-être pas partir loin, à l'étranger, à l'autre bout de la planète. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi l'occasion de faire le point et de s'interroger sur quelque part ce tourisme, le tourisme qu'on pourrait dire qui est maintenant devenu un tourisme de masse, puisque depuis les années 70, le tourisme ne fait que exploser en termes de chiffres économiques, hein, puisqu'il prend 5% de croissance chaque année. Donc c'est assez énorme. Et on voit que cette expansion du tourisme ne fait que croître. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, en 2018, on est à 1,4 milliard de séjours à l'étranger, ce qui est assez énorme. En 2008, on était seulement à 560 millions de séjours. Donc, il y a vraiment cette explosion est là.
C'est pour le monde entier, hein, ces chiffres, hein, c'est ça?
Oui, c'est pour le monde entier. Donc, on voit qu'il y a une croissance en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et dans les pays asiatiques. Mais alors voilà, c'est là aussi qu'on peut mettre déjà un premier petit point négatif, c'est que c'est accessible à certaines classes émergentes surtout, en fait. Alors, cette explosion de tourisme, on peut s'interroger parce qu'effectivement, si on prend le temps d'observer les choses, c'est qu'on peut constater des dommages, notamment sociaux, mais aussi environnementaux.
Alors, lesquels, justement ?
Alors, si on s'interroge sur les dommages environnementaux, je pense que les auditeurs en ont conscience, hein, c'est que ce tourisme de masse va provoquer un certain nombre de conflits, un certain nombre de tensions, notamment en ce qui concerne l'accès aux ressources. Alors, quelles sont les ressources ? Ça va être les ressources foncières, puisque pour développer des complexes touristiques, on va avoir notamment des déplacements de population. Par exemple, en Birmanie, là où étaient des rizières, on a déplacé les agriculteurs pour mettre en place des bases nautiques. Donc on a toujours un antagonisme finalement sur le foncier entre les populations qui habitent, et bien souvent des paysans, et les promoteurs immobiliers qui souhaitent construire des complexes touristiques, des grandes piscines, des terrains de golf. Voilà, donc là, on a vraiment des tensions qui sont réelles. On a aussi le problème d'accès aux ressources en eau. On a vu, par exemple, au Kenya, là où la pression sur l'accès à l'eau est énorme, des remplissages de piscines, voilà, démesurés, qui finalement captaient cet accès aux ressources. Et on peut voir que dans les pays, au plus les pays sont pauvres, au plus cette tension sur l'accès aux ressources est forte.
Alors pourtant, on se dit, c'est bien la démocratisation du tourisme, c'est formidable que tout le monde puisse voyager, non ?
Oui, alors on a peut-être cette impression de démocratisation du tourisme, ce tourisme qui est accessible à tout le monde, puisqu'on va voir, en fait c'est comme un bien de consommation, hein. Maintenant le tourisme, on va avoir des voyages touristiques de luxe qui vont coûter cher, et puis on va avoir se développer toute une série de séjours à bas prix, low cost, etc. Mais d'une part, alors faut bien s'imaginer que si on a, et là on va le voir avec la crise touristique, on va avoir des grandes promotions, etc. C'est que derrière, il y a de la main-d'œuvre, il y a des personnes qui travaillent dans le tourisme. Donc si on peut proposer des voyages à bas coût, c'est que quelque part la main-d'œuvre, les travailleurs dans le tourisme aussi, on fait une certaine pression aussi sur leur travail hein, pour réduire les coûts. Maintenant, en ce qui concerne la démocratisation des vacances, faut savoir qu'en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Alors, si par exemple dans les grandes villes, on est entre 70% et 80% des personnes qui partent des grands centres urbains pour avoir cet esprit de vacances, etc., imaginez pour les 30% des personnes qui ne partent pas en vacances, la difficulté, enfin vraiment cette impression d'exclusion sociale. C'est pour cela que, par exemple, le Secours Populaire, l'année passée, alors ils ont aidé 184 880 personnes à partir en vacances. Donc ils ont un projet qui s'appelle « Accès aux vacances pour tous » pour permettre aux familles qui sont dans des difficultés financières, souvent ce sont des familles monoparentales, des jeunes aussi ou des personnes âgées pour avoir accès aux vacances. Ça, c'est la question de la fausse démocratisation des vacances en France. Mais d'un point de vue international, il faut voir que 80% des voyages à l'international, en fait, ces touristes internationaux sont originaires seulement de 20 pays différents. Donc on est loin du compte d'une démocratisation mondiale du tourisme. Ajouter aussi, c'est que l'ouverture des frontières, alors nous, on peut le voir du point de vue français, et on a cet accès à l'ensemble des pays de la planète pratiquement. Par contre, l'ouverture des frontières, lorsqu'on est d'origine africaine ou d'origine asiatique et dans certaines conditions sociales, sans emploi, etc., on peut le voir, la question des migrations, voilà, là on peut voir que les frontières ne sont pas ouvertes à tout le monde, que du contraire.
Ça, c'est sûr, on l'a vu. Mais cette réflexion sur le tourisme ne date pas du coronavirus ni de l'épidémie. Peut-être qu'il y a des pistes de réflexion qui ont été lancées avant, d'ailleurs, et qu'il conviendrait de suivre à présent. Lesquelles ?
Alors, effectivement, hein, c'est une question qui est en tête depuis longtemps. Et puis, les vacanciers, les touristes se posent aussi des questions. Nous, par exemple, à Ritimo, on a édité un petit bouquin qui s'appelle « Vacances, j'oublie tout », déjà depuis les années 2000, en fait, pour réfléchir un petit peu ensemble à cette question du tourisme. De ce fait, il y a des alternatives qui existent. Il y a aussi des essais de réglementation, de chartes, etc. Ceci dit, rien n'est contraignant actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'en retourne à la conscience un petit peu individuelle de chacun. Un voyage, c'est un événement qui se prépare et il faut prendre le temps de bien le préparer. On peut se poser la question aussi, c'est lorsqu'on voyage à l'étranger, que souhaite-t-on exactement ? Est-ce qu'on veut quelque part consommer de l'espace, consommer des vacances, ou est-ce qu'on souhaite aller vraiment à la rencontre des autres, à la rencontre d'une autre culture ? Et sur cette question-là, il y a des associations, souvent, qui vont proposer des voyages un peu alternatifs. Alors, je peux en citer, hein, vous avez par exemple Croque Nature qui va proposer la découverte des pays, l'Algérie, le Maroc, le Mali, la Mauritanie, avec des associations locales, notamment Amitié Franco-Touareg. On va avoir d'autres associations comme Double Sens, comme l'association Départ, Culture Contact, qui vont proposer des séjours un petit peu clés en main, mais en remettant vraiment la culture locale au centre du voyage et surtout qui vont travailler avec des partenaires locaux. Parce que c'est ça aussi un des dommages du tourisme de masse, c'est qu'on peut voir que finalement les bénéfices, la manne financière que peut générer le tourisme, eh bien en fait repart dans les entreprises touristiques du Nord. Par exemple, en Thaïlande, il faut savoir que 60% des bénéfices liés au tourisme repart dans les infrastructures du Nord. Seulement 40% va rester pour la population locale. Et c'est cette réflexion-là aussi qu'il faut avoir quand on prépare un voyage, c'est de se dire ben finalement, en payant une chambre chez l'habitant, en allant dans une chambre d'hôte, en allant dans un hôtel tenu par la population locale, eh bien je favorise réellement l'économie locale. sur, donc on pourra retrouver des associations françaises ou européennes qui vont travailler avec des associations locales. On peut trouver aussi des associations, par exemple au Canada, qui vont travailler directement, qui vont proposer aussi des séjours clés en main, qui vont travailler avec des Amérindiens sur place. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi d'être directement avec ces personnes-là, en fait.
Et puis, il y a peut-être aussi, au-delà du tourisme pur, enfin, je suppose, des organismes qui proposent des voyages, mais plutôt d'entraide ou des chantiers. Je suppose que ça existe toujours.
Oui, tout à fait. Alors, surtout à destination des jeunes, si vous souhaitez voilà, réaliser des vacances avec un objectif solidaire ou un objectif vraiment d'un projet citoyen, eh bien effectivement, il y a les camps chantiers qui rassemblent alors sur un camp chantier, ça dure en général, ça peut aller d'une semaine à 3 semaines. Ça peut se passer en France, mais aussi ailleurs en Europe ou dans le monde. Et un camp chantier va rassembler toute une série de jeunes, mais du monde entier. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez avoir un projet à réaliser ensemble. Donc, ce qui veut dire travailler ou mettre en place des actions avec des personnes d'une culture différente de la vôtre. Donc, c'est intéressant parce qu'on est aussi là au plus proche de la rencontre. Par exemple, dans le Finistère, vous avez l'association Gwenili qui propose un camp solidaire, un chantier solidaire au JUC qui va rassembler des jeunes européens. Alors, en général, ces camps chantiers s'adressent davantage aux jeunes, aux moins de 30 ans. Maintenant, si on souhaite partir aussi avec une envie de voyage un peu solidaire, vous avez par exemple le woofing, hein, qui permet de travailler, donc c'est un réseau de fermes alternatives, biologiques ou de fermes familiales, qui en échange de coups de main durant la journée, va vous proposer le gîte et le couvert. Voilà, et ça, il n'y a pas de restriction d'âge, en fait.
Et quand le CICODES propose des ateliers sur cette thématique-là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors nous, on propose des ateliers sur l'envie de partir et on va surtout s'interroger à la rencontre interculturelle qui peut se passer sur place. C'est-à-dire que souvent, quand on a un souhait de partir à l'étranger avec une optique un petit peu solidaire, parce que c'est pour ça que les jeunes, en général, viennent nous rencontrer, on va mettre un petit peu entre parenthèses le côté solidaire et on va se dire, mais tiens, d'un point de vue interculturel, qu'est-ce qui va se passer ? Et que vais-je apprendre sur la culture de l'autre ? Mais que vais-je apprendre aussi sur ma propre culture ? Et c'est là que c'est très intéressant, en fait, de quelque part de réfléchir à des choses auxquelles on ne s'y attendait pas, en fait. Quel est mon rapport avec ma propre culture et quel regard, que vais-je découvrir sur ma propre culture au contact de l'autre ?
Le CICODES, association de solidarité internationale basée à Quimper, que nous retrouvons dans l'EM la saison prochaine.